L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne L'AJT du local. Et on est aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, avec Claire qui est dans nos studios à Laval. Bonjour Claire.
Bonjour tout le monde.
Tout va bien aujourd'hui?
Tout va bien, il fait beau, il fait chaud, tout va bien.
Alors il fait chaud, je ne sais pas si vous êtes allé dehors, il ne fait pas vraiment très chaud, mais il fait beau, c'est vrai.
Oh,
aujourd'hui, donc, ce jeudi, on va parler d'une nouvelle tête qui a la direction du refuge de l'Arche, plutôt la direction, une nouvelle tête à cette direction du refuge de l'Arche, avec Yanush Day qui passe le relais en fin d'année. Son successeur est arrivé cette semaine. On va parler aussi de financeurs solidaires qui aident des projets locaux. C'est le principe des Cigales, une association plutôt bien développée en Mayenne. Et on continue notre semaine autour du codage informatique, un domaine qui recrute et notamment des filles. Mais tout de suite, un point sur l'actualité. L'EHPAD de Renazé touché par la Covid. Un résident de l'EHPAD a été testé positif au coronavirus et transféré dans le service médecine. L'ensemble des patients, résidents et professionnels du site de Renazé vont donc être testés. Les visites sont suspendues pour 7 jours, éventuellement reconductibles. Au total, 3 patients testés positifs à la Covid-19 sont hospitalisés à l'hôpital du Sud-Ouest Mayennais. Une manifestation prévue cet après-midi à Baie, au foyer Blanche-Neige. À l'appel du syndicat Force Ouvrière, les professionnels de santé du milieu du handicap organisent un rassemblement à 14h. Ils réclament la même augmentation que les agents des EHPAD, à savoir 183 € net par mois, et menacent de suspendre la mobilité au sein du pôle. Une délégation de 4 personnes sera reçue à la mairie à 14h30. Et le syndicat Force Ouvrière donne aussi rendez-vous devant l'établissement public social et médico-social de Mayenne à 14h avec un même message, l'augmentation de 183 € mensuels pour tout le personnel médical. Défense des commerces, les amendements des députés mayennais ont été rejetés. Yannick Favennec et Guillaume Garot n'ont pas réussi à faire entendre leur voix pendant l'examen du projet de loi sur l'état d'urgence sanitaire. Les députés mayennais avaient déposé des amendements pour que la décision de rouvrir les commerces de proximité soit prise localement par les préfets, démarche repoussée par la majorité à l'Assemblée nationale. Les personnes isolées dans le viseur du CCAS de Laval. Pendant le confinement, le Centre communal d'action sociale de Laval remet en place son registre des personnes isolées. Elles sont contactées par téléphone au moins 2 fois par semaine par du personnel formé spécifiquement. Ce pourrait être même des appels 3 fois par semaine avec l'arrivée de l'hiver. Aujourd'hui, 195 Lavallois sont inscrits sur ce fichier. Et les bénévoles du Secours catholique, eux aussi, restent mobilisés. Les entretiens avec les travailleurs sociaux se font désormais par téléphone. L'accueil de jour petit déjeuner tremplin sera les lundis et mercredis matins de 9h à 11h45. Et pour les aides alimentaires, les permanences restent inchangées. Les mardis et jeudis matins, toujours sur rendez-vous. Et puis on en parlait en début d'émission, Yanush Day va quitter le refuge de l'Arche. À partir du 1er janvier prochain, il ne sera plus directeur de la structure située à Château-Gontier-sur-Mayenne. Son successeur est arrivé en début de semaine pour 2 mois de tuilage. Yanush Day en était le directeur depuis 2008 à la suite de son père Christian Yanush Day, fondateur du refuge. Mais il estime avoir déjà investi beaucoup de temps et d'énergie dans le projet. Il souhaite désormais tourner la page.
Je suis né ici, j'ai grandi ici, je me suis investi vraiment de manière active depuis l'âge de mes 12 ans. Voilà. J'arrivais à un âge où j'ai besoin de prendre un petit peu de recul sur l'aventure, avec l'idée de ne plus être actif au quotidien dans les missions du refuge. Mais pour autant, je continuerai à accompagner le projet. Je ne quitte pas le refuge, je ne tourne pas le dos à l'association. Je continuerai d'accompagner le projet avec une autre casquette, celle de bénévole, peut-être celle d'administrateur. C'est une décision qui est effectivement très personnelle, qui est aujourd'hui d'autant plus possible que le refuge s'est structuré. Le refuge ne repose pas sur mes seules épaules et c'était toute la volonté et toute l'énergie que j'ai émis ces 10 dernières années. Ces 10 ans de direction, ça a été un travail pour moi de restructuration du refuge, finalement à 3 niveaux. Une restructuration, on va dire, des installations. Il était nécessaire de repasser un petit peu partout pour répondre aux normes qui ne cessent de changer, mais je crois qu'il n'y a pas un domaine d'activité où les normes n'évoluent pas. Et il fallait remettre l'établissement à niveau, donc ça a été un des objectifs. Le deuxième, c'est que dans le même temps, on est parti sur un projet d'une nouvelle extension du refuge, puisque le refuge est passé de 10 à 20 hectares. Il a fallu réfléchir à un projet structurant d'extension du refuge. Ça, c'était vraiment le premier niveau de restructuration. Après, ça a été une structuration dans l'organisation quotidienne. Il était pour moi nécessaire de professionnaliser les activités, de faire en sorte que le quotidien repose sur une équipe de professionnels qui est composée aujourd'hui d'une vétérinaire, de soigneurs animaliers, pour la question du chantier d'insertion, d'une conseillère en insertion professionnelle. Nous avons une chef-soigneur, une équipe technique aussi, avec des personnes compétentes dans leur domaine d'activité. Et puis une chargée de com qui est venue compléter le puzzle de cette équipe pluridisciplinaire. Ça, c'était le deuxième niveau. Et puis le troisième niveau, c'est celui de l'association, avec cette reconnaissance d'utilité publique que nous avons obtenue en 2014. Et une association qui doit continuer, elle, de se structurer pour assurer une gouvernance qui soit dans la définition d'un projet pour les 5 ou 10 années qui viennent.
Le successeur de Janusz D n'est pas inconnu aux salariés et bénévoles, puisque Hugues Lemercier était déjà administrateur de l'association depuis 2 ans. Pour rappel, le refuge reste fermé au public au moins jusqu'au 1er décembre. Pour aider à la prise en charge des 1200 animaux accueillis, vous pouvez faire un achat anticipé de billets, un don ou adhérer à l'association. Toutes les infos à retrouver sur le site du refuge de l'Arche. Une rencontre cigale recherche fourmi, ce n'est pas une adaptation d'une fable de La Fontaine, mais un temps d'échange entre porteurs de projets et financeurs solidaires. Retrouvez l'interview d'ici quelques minutes, le temps d'écouter Céleste avec Stop This Flame.
Goes up, my heart goes down. We fall in love and we fall back out. I'll give you anything you want, anything you want, anything, anything. Just don't tell me no. You stop it still, then you make it rush. You're like a pill that I just can't trust. You tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on.
You'll never stop this thing. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on.
You'll never stop this thing.
Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio. Et vous le savez, il n'est pas toujours évident de trouver des financements pour son projet, sa création d'entreprise. Une solution possible, c'est de faire appel aux CIGAL, ces groupes de particuliers financeurs. On va voir comment ça fonctionne. Yvonne Genet, vous êtes donc coprésidente de l'Association régionale des CIGAL des Pays de la Loire et de la Fédération nationale des CIGAL. Bonjour.
Bonjour.
Donc, avant le confinement, était prévue en Mayenne une rencontre CIGAL cherche fourmi pour mettre en relation des créateurs d'entreprises et des financeurs locaux. C'est un peu l'objectif de l'association, le cœur même de son action.
Effectivement, les CIGAL apportent souvent les trois premiers sous, les premiers fonds propres pour des entreprises qui ont du mal à accéder aux prêts bancaires ou qui n'ont pas de fonds propres, pas de famille pour les aider. En fait, donc les CIGAL apportent ces premiers fonds propres. Et puis, mais pas que, les CIGAL accompagnent aussi le porteur de projet tout pendant que l'investissement n'est pas rendu.
Alors justement, quels sont peut-être même d'ailleurs les critères par rapport à ces projets que vous pouvez accompagner et soutenir ?
Alors, ce sont de petits projets, hein, en général, avec la création d'un emploi, de l'emploi du porteur de projet. Bon, heureusement, après, ça fait des petits, mais c'est souvent ça. Et les critères de choix, eh ben, ce sont justement hein, les porteurs de projet qui vont avoir du mal à démarrer sans nous. Quelqu'un qui obtient son prêt bancaire facilement, qui a accès à toutes les aides possibles et imaginables, bon, on ne dit pas qu'on ne va pas l'aider, mais on ne va pas l'aider en priorité.
Et au niveau des projets concernés, est-ce qu'il y a des domaines où vous intervenez plus ou pas forcément ?
Alors, en Mayenne, pour l'instant, c'est souvent le petit commerce de proximité. C'est souvent... Les petites entreprises agricoles, maraîchage, mais ça peut être aussi de l'artisanat. Et justement, parmi la huitaine de projets là, qui vont nous être soumis, puisque à cause du confinement, on était obligé de recevoir sur rendez-vous seulement. Donc, on a déjà une petite connaissance des porteurs de projets qui vont nous le présenter samedi. On leur consacre, on va dire, 10 minutes, un quart d'heure, donc ils se présentent. Et puis après, ils répondent à nos questions. Et c'est projet par projet, bien entendu. Et ensuite, nous établissons une fiche que nous envoyons à l'ensemble des CIGAL de la Mayenne. Et après, eh bien, elles vont se prononcer à l'intérieur de leur CIGAL. Parfois, les faire revenir pour avoir d'autres précisions et décider si elles aident ou pas.
Justement, tout ce processus, ça doit prendre du temps entre le moment où il y a cette première présentation du projet et si tout va bien, si le financement est ensuite accordé, ça prend combien de temps ?
Eh bien, ça dépend parce que vous voyez, la semaine dernière, alors en dehors d'un CIGAL et cherche-fourmis, parce que le CIGAL cherche-fourmis, c'est un rendez-vous deux fois par an, un rituel, mais tout au long de l'année, eh bien, les CIGAL, heureusement, sont saisis de projets. Et mi-octobre, via Co-démarrage, la coopérative d'activité et d'emploi, eh bien, nous avons eu connaissance d'un petit projet minuscule. Il fallait trouver 500 euros rapidement. Eh bien, le 29, la veille du confinement, ça doit être ça, hein, le 29 octobre, trois CIGAL ont rencontré la porteuse de projet et ont décidé de la soutenir. Donc oui, ça peut être assez rapide, la preuve, là, c'est une quinzaine de jours. Mais en général, c'est un petit peu plus long quand c'est pour des sommes un peu plus élevées et parce que, comment dirais-je, on interroge aussi sur la, le côté humain, comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce que, quel domaine, quels vont être les clients, enfin, etc. Il y a quand même un minimum de dossiers à nous présenter. Quelquefois, on nous dit, mais vous êtes aussi CH qu'une banque. Eh bien, sans doute, mais ce qu'on veut, c'est que ben, l'argent qu'on va apporter, notre argent, eh bien, serve à quelque chose. Et si jamais on sent que le projet ne va pas tenir la route ou que la personne est un peu trop rêveuse, eh bien, on va plutôt la diriger vers autre chose, notamment vers une coopérative d'activité d'emploi. Non seulement on apporte 3 sous, mais on accompagne, on oriente. Quelquefois, on va diriger vers la boutique de gestion pour faire un stage en gestion. Et de toute manière, il faut qu'il fasse toutes les démarches nécessaires pour créer une entreprise, même un auto-entrepreneur, hein, bien sûr, vers les chambres consulaires.
Quels sont les critères ou les points qui peuvent faire qu'un dossier va être accepté ou à l'inverse rejeté d'office parce que ça, vous savez que ça ne tiendra pas la route et vous n'en voulez pas?
Eh bien, il n'y a pas eu de réflexion suffisante en amont, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau débouché, que ce soit au niveau administratif, que ce soit... il faut que... le projet soit ficelé, hein. On va l'aider s'il ne l'est pas, mais il ne s'agit pas de dire du jour au lendemain, écoutez, je vais vendre des carottes sur le marché, je vais les acheter à un maraîcher, et puis point à la ligne, non, il faut que, on ait devant nous quelqu'un qui a bien étudié son affaire.
Et donc, ça veut dire que les cigales, donc du coup, vous, les financeurs, vous, quels sont les profils un peu qui sont représentés? Parce qu'on peut dire, il faut s'y connaître pour juger de la viabilité d'un projet comme ça.
Alors, je vais vous dire d'abord du bon sens. Franchement, d'abord du bon sens. Un peu de psychologie quand même, hein, on voit bien, tout de même bien à qui on a affaire. On ne met pas un quart d'heure à cerner quand même le porteur de projet. Et puis, parmi nous, y a quand même pas mal de cigaliers, de membres qui ont une certaine expérience. Ça va être en agriculture, ça va être dans le commerce, ça va être dans l'artisanat, ça va être dans l'administratif, hein. Ça va être, je pense, des cigaliers ou cigalières assistantes sociales, qui vont creuser un petit peu plus l'aspect personnel, voyez.
Et justement, comment ce réseau est organisé, puisque donc il y a plusieurs cigaliers, cigalières, que je me fasse bien au terme, au sein d'une cigale, c'est ça?
Oui, oui, oui. Alors, on y rentre facilement. Enfin, faut être accepté par le groupe aussi. Quand le groupe se forme au départ, c'est vrai que on discute entre nous et on voit tout de suite s'il y a des personnes qui n'ont pas le profil d'un cigalier, c'est-à-dire qui viennent là juste pour dire je veux que ça me rapporte de l'argent, ça va me rapporter combien. Ce profil-là, on va le décourager parce que il y a d'autres structures. Les cigales, c'est pas le bénéfice ou le rapport avant tout, hein. On va aussi voir si le collectif, si on est prêt au collectif, puisqu'on épargne ensemble, donc collectivement, on décide ensemble de ce qu'on va faire de ce pot commun. Donc, vous avez des personnes qui sont pas faites pour le collectif. Donc, ça se voit quand même assez vite. Effectivement, on recherche aussi des compétences multiples, mais il y en a. Hein, même des personnes qui ne croient pas en avoir de compétences, qui disent « non, moi, je sais pas faire ». Et si, tout le monde sait faire quelque chose.
Au niveau investissement financier, Est-ce qu'il y a une moyenne des cigaliers, cigalières ou pas?
Alors, en moyenne, c'est entre 2 et 3 000 euros par an, par projet et par cigale. Mais ça peut être moins. Le dernier projet qu'on a soutenu, il fallait seulement 500 euros. Donc, ben, on nous demande 500 euros, on ne va pas porter plus. En revanche, pour certains projets, eh bien, ça va être de l'ordre de 10, 20 000 euros. Et là, on va essayer d'y aller à plusieurs cigales pour justement partager les risques, mais aussi partager notre intelligence collective.
Donc là, par exemple, en Mayenne, il y a plusieurs cigales, j'imagine?
Alors, nous avons créé 16 cigales en 12 ans en Mayenne, et une cigale durant 5 ans. Eh bien, pour l'instant, il y a 10 cigales actives et 6 cigales qui sont entrées en gestion. Alors, elles entrent en gestion quand, au bout de 5 ans, quand elles n'épargnent plus, quand elles n'investissent plus, mais elles ne sont pas dissoutes, elles continuent à accompagner les porteurs de projets jusqu'à ce que le dernier centime soit remboursé. Pour l'instant, 10 cigales en activité, active, hein, et on a pas mal de chance parce qu'on a des cigales un peu partout, hein, 2 dans le sud, 3 dans le nord. Alors si on compte Mayenne à part, il y en a 3 aussi, et puis 2 sur Laval, donc on doit arriver à 10. Donc il m'en manque sur Ernée, sur Cosselvivien-Cran, et puis sur le bocage mayennais du côté de Goron, là il nous en faudrait bien. Mais ce qui ne nous empêche pas d'aller soutenir des projets sur ces secteurs-là. Parce qu'en Mayenne, les cigales, on dit, elles chassent en meute. Elles travaillent donc en collectif. Et nous avons soutenu un projet de Saint-Denis-de-Gâtine, donc il n'y a pas de cigales. Mais c'est 2 cigales de Mayenne qui ont apporté du soutien à ce projet sur Saint-Denis-de-Gâtine.
Et si justement on peut donner quelques exemples de projets qui ont été accompagnés ces derniers mois ou ces dernières années?
Alors, les derniers, alors sur Laval, on a un projet qui a vraiment, vraiment bien réussi. C'est le food local à Saint-Germain-d'Anxur. On a donc à Saint-Denis-de-Gâtine, c'est une bergère. Et puis le dernier en date, là, c'est une étrangère, une chadienne, qui fait le marché de Laval pour vendre ses petits gâteaux secs.
Donc on voit que c'est quand même des projets assez variés. Qu'est-ce qui vous, plus personnellement, vous plaît dans cet engagement auprès des cigales?
Alors, c'est les rencontres que je fais, les rencontres à l'intérieur des cigales, déjà, parce que souvent, on ne se connaît même pas au départ, donc des rencontres extraordinaires, mais comme pour rester dans une cigale, il faut partager des valeurs, donc les gens qui restent, on a les mêmes valeurs, donc ça, ce rapport humain, ce lien social donc entre les cigaliers, entre les cigales, parce que d'une cigale à l'autre, ça n'est évidemment pas les mêmes personnes et pas forcément les mêmes règlements, pas forcément les mêmes vues pour choisir les projets, etc. Ça, c'est très riche. Et puis alors aussi la rencontre avec les porteurs de projets. Le dernier en date, là, cette tchadienne qui souhaite un peu s'émanciper par le travail et qui a suivi une formation, qui fait sa petite pâtisserie chez elle et qui vend sur le marché, ben, dites donc, ça nous ouvre des horizons aussi, hein. Elle nous a raconté un peu d'où elle venait, ce qu'elle faisait et pourquoi elle nous envie, nous les Françaises, parce que nous travaillons. C'est un autre univers. Les cigales, elles sont nées en Mayenne il y a seulement une dizaine d'années, 12 ans maintenant quand même. Eh bien, autour d'un projet à Mayenne qui s'appelle Mayenne Bois Énergie, qui a démarré tout petit et qui maintenant a une envergure bien sûr départementale et qui est à l'origine d'un label national, le label E, pour justement pouvoir préserver l'environnement, préserver le bocage. Et tout ça, c'est les 5000 premiers euros que des cigaliers de Mayenne, les deux premières cigales de Mayenne, ont apporté à cette entreprise.
Merci Yvonne Genet d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir présenté le dispositif des cigales. Et pour plus d'informations, vous pouvez la contacter au 02 43 00 32 02 ou par mail à cigales avec un S 53@laposte.net et n'hésitez pas à vous rendre sur le site des cigales des Pays de la Loire, il est très bien fait.
Auditeurs consommateurs, bonjour. Que choisir vous informe aujourd'hui.
Alors, petit souci, je pensais lancer une musique qui n'est pas pas prévue au programme, mais c'est pas grave, on va y aller tout de suite avec la chronique du FC Que Choisir et Jean-Michel Guinaudot qui décrypte aujourd'hui pour nous les étiquettes des aliments.
Auditeurs consommateurs, bonjour. Que Choisir vous informe aujourd'hui sur l'étiquetage des produits alimentaires. Je vous fais cette chronique car je viens de voir une publicité pour une marque de sucre mettant en avant son origine végétale. Mais peut-être ne vous étiez-vous pas posé la question de la fabrication du sucre. Le sucre que l'on consomme en France sous forme de morceaux ou en poudre provient principalement de deux plantes, la betterave à sucre, en France, et la canne à sucre, dans les pays tropicaux, dont le Brésil. Celui qui est utilisé dans les produits alimentaires transformés, comme les sauces, les gâteaux, peut provenir du maïs. Et cela depuis très très longtemps. Alors, me direz-vous, pourquoi mettre en avant l'origine végétale du sucre? Vous l'avez sans doute remarqué, l'air du temps est au dénigrement des produits animaux, en raison de certaines conditions d'élevage et de la mise à mort, raison auxquelles pourrait s'ajouter un risque de cancer. Alors, vantons l'origine végétale du sucre, c'est vendeur, même si c'est évident. Bien sûr, il y a aussi du sucre d'origine animale. C'est le miel des abeilles. Je n'en connais pas d'autre qui soit utilisé par l'homme. Il doit être possible de synthétiser du sucre à partir du pétrole, mais pourquoi s'embêter alors que les plantes en fournissent tant? La réglementation sur l'étiquetage des produits alimentaires est très stricte. Encore faut-il savoir la décoder. Tout d'abord, le nom du produit. Il ne doit pas être trompeur, mais il y a des subtilités. De la confiture de fraises doit contenir plus de 50% de fraises, mais de la confiture à la fraise peut n'en contenir que 5%. Dans les deux cas, le taux de fraise doit être indiqué dans la liste des ingrédients. Ceci est vrai que vous achetiez des jus de fruits ou du pâté, des salades composées ou des paupiettes de veau. Mais pour le foie gras par exemple, attention aux appellations. Il y a le foie gras entier, le foie gras, le bloc de foie gras, le bloc de foie gras avec morceaux, le parfait de foie gras, la galantine de foie gras, la mousse de foie gras. Alors, renseignez-vous sur ce que recouvrent ces dénominations avant de vous lancer dans vos achats de fête. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'on achète d'abord avec ses yeux. Donc, attention à l'image. Comme il est écrit en tout petit et souvent en travers, elle n'est jamais contractuelle et c'est une suggestion de présentation. Autrement dit, elle est là pour attirer vos yeux et non pour vous informer sur la nature du produit. La liste des ingrédients suit l'ordre d'importance de chacun d'eux dans la recette et il n'est pas rare de voir que l'eau est en seconde ou troisième position. On vous vend donc de l'eau au prix fort. Un bon produit ne contient pas plus de 4 ou 5 ingrédients. S'il y en a plus, il s'agit d'un produit très transformé, ce qui, en règle générale, n'est pas très bon pour la santé. La présence des produits E quelque chose n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Mais car s'ils sont ainsi dénommés, c'est qu'ils ont reçu une autorisation officielle d'utilisation avec des règles d'utilisation précises. Ce qui est mauvais, c'est leur trop grand nombre dans un même produit. Toujours l'effet cocktail. Le tableau de la composition en énergie, gras, sucre, dit déclaration nutritionnelle obligatoire, ne dit pas grand-chose à la plupart d'entre nous. C'est pourquoi Que Choisir, avec d'autres associations, a bataillé dur pour imposer une grille de couleurs, du vert au rouge, avec les lettres de A à E, que l'on appelle le Nutri-Score. Ce logo donne une information simplifiée sur la qualité nutritionnelle du produit. La notation est donnée après une prise en compte de la quantité d'ingrédients à favoriser et les ingrédients à limiter. Le tableau, un tableau en ligne sur la liste de Santé publique France, permet aux entreprises de connaître la couleur de leurs produits. En tant que consommateur, d'instinct, vous n'allez pas acheter le produit classé en rouge, s'il existe un produit similaire, classé en jaune par exemple. Certains produits seront toujours dans les oranges ou les rouges, comme les charcuteries ou les matières grasses. Il faudra seulement en limiter la consommation, mais pas forcément s'en priver. Le plaisir est aussi utile à la santé. Le résultat obtenu par ce mode d'étiquetage est significatif. De nombreuses marques ont modifié leurs recettes pour améliorer leurs notes. Moins de sel, moins de gras, moins d'additifs. C'est vous, consommateurs, par votre geste d'achat, qui avez obtenu que l'on vous offre des produits de meilleure qualité. Et avec votre smartphone, n'hésitez pas à télécharger des applications spécialisées comme Yuka ou Open Food Fact. En scannant le code barre du produit, vous avez automatiquement la réponse. Ce que vous avez gagné pour les produits alimentaires en achetant les produits les meilleurs, faites-en autant avec tous vos achats. Le produit est-il bon pour ma santé, pour l'environnement? Dorénavant, vous ne ferez plus vos courses comme avant. L'UFC Que Choisir de la Mayenne vous informe au 02 43 67 01 18 ou sur mayenne.ufcquechoisir.fr et notre page Facebook. Bonne semaine. And you're the capital.
autre radio et nous sommes dans l'émission L'Agité du local. Un stage entièrement dédié au codage informatique sous toutes ses formes, c'est le principe de Girls or Coding, organisé pour la première fois la semaine dernière à l'IUT de Laval. Destiné aux jeunes filles de 13 à 16 ans, il propose de découvrir l'envers d'un site web, d'une programmation de robots ou encore d'un jeu vidéo. Contrairement au témoignage de ses camarades diffusé hier, Lise Marie ne savait pas vraiment ce qui l'attendait avant de venir. Résultat, elle est conquise.
Alors, je trouvais ça vraiment cool de pouvoir faire un stage entre filles. Bon, faut savoir, c'est pas du tout ce que je veux faire à l'informatique, mais j'ai appris beaucoup de choses quand même. Alors, j'ai appris à créer un site, j'ai appris que derrière un site, il y avait plein de codes à rentrer pour justement créer un site. J'ai appris aussi qu'aujourd'hui, nous faisons un jeu vidéo, on le crée et tout, c'est trop stylé. Et hier, c'était ma journée préférée car on a fait de la robotique. Et ça, c'était vraiment cool parce qu'on faisait du programme et le robot l'interprétait et c'était vraiment stylé. J'aurais jamais pensé que c'était comme ça, mais ouais, c'était très dur, mais c'était super cool. Alors, je retiendrai que l'informatique, c'est vraiment ouvert à tout le monde et pas que aux garçons. Par la suite, je serai plus forte en techno, ça c'est sûr, mais je pense pas que j'en ferai mon métier non plus parce qu'il faut vraiment être concentré tout le temps et... c'est pas ce que je préfère non plus. Je changerais totalement de manière de penser en techno. D'habitude, quand je rentrais en cours, je disais oh non, pas la techno. Mais là, franchement, ça me plaît bien, mais pas ma matière préférée non plus. On comprend mieux, on approfondit vraiment les choses qu'on fait ici, alors qu'au collège, on les approfondit, mais ça reste vague. Alors que là, je sais réellement ce que c'est un derrière d'un site, un arrière d'une programmation de robot, enfin...
Pourtant, Lise Marie n'envisage pas de choisir cette orientation. Dommage, car il y a des débouchés, souligne Mathieu Gesta. Il est chargé de mission formation au RFI Atlantique 2020, l'organisateur du stage.
Les codeurs informatiques choisissent leurs employeurs. C'est vraiment un métier qui recrute énormément. Donc, le codage informatique recrute, recherche à recruter différents profils, donc notamment des profils de femmes. Et donc c'est une filière qui est vraiment porteuse, donc j'invite vraiment toutes les personnes qui cherchent à s'orienter à envisager cette possibilité. Pourquoi pas codeuse ? C'est vraiment un super sujet, c'est vraiment une carrière qui peut s'ouvrir. Grande possibilité d'emploi, une mobilité nationale, internationale aussi. Il faut aussi pouvoir parler anglais, s'adapter au sein des équipes. C'est aussi différents rôles qu'on peut prendre dans les équipes. Il peut y avoir du codage pur, mais il peut y avoir aussi de la gestion de projet, il peut y avoir de la relation client, il peut y avoir beaucoup d'aspects assez stimulants en fait dans ces métiers, puisqu'il n'y a pas qu'un métier dans le codage pur, puisqu'en plus, déjà, il y a différents langages. Mais en plus, il y a d'autres relations au public, relations à l'équipe, relations aux produits, relations aux projets, des contextes dans lesquels on peut s'inscrire. On peut s'inscrire dans l'économie sociale et solidaire aussi, qui peut être un secteur intéressant d'un point de vue informatique. Donc il y a des belles perspectives de carrière, notamment par les temps de Covid qui courent.
Et demain, pour le dernier épisode, nous entendrons l'un des intervenants, prof à l'IUT, qui regrette le manque de féminisation de la profession. C'est désormais l'heure de notre rubrique autour des belles initiatives en ces temps de reconfinement avec Claire. Et on commence cette chronique justement avec une carte interactive.
Et oui, à Mayenne, la JCE, la Jeune Chambre Économique, a publié une carte interactive appelée « Solidarissime ». Elle permet de référencer tous les restaurants de la partie nord de la région encore ouverts pendant cette période de confinement. La carte va de Laval à Lignières-Orgères en passant par Fourgerolles-Duplessis et elle est à retrouver sur le site de la JCE de Haute-Mayenne.
Toujours dans les initiatives pour nos commerçants, un local a été mis à disposition à Villaines-la-Juhelle avec des chèques cadeaux pour nos aînés.
La municipalité et l'association des commerçants Villennais a mis à disposition un local dans le centre-ville permettant aux commerçants de regrouper commandes et livraisons. Le centre communal d'action sociale va offrir quant à lui 500 chèques cadeaux à toutes les personnes de plus de 70 ans.
Et si vous avez une envie de lecture, sachez que la Bibliodrive reprend du service.
Et oui, les bibliothèques sont fermées au public et pourtant on peut retrouver tous ces livres préférés et bien plus encore grâce à la Bibliodrive de Saint-Berthevin. En effet, à la médiathèque Le Reflet, il est désormais possible de réserver son livre et de le récupérer 24 heures plus tard à l'accueil. Retrouvez le catalogue et le lien de réservation sur labib.aglo-laval.fr ou par téléphone au 02 43 66 01 72.
Et la ville de Laval donne la parole à ses habitants sur les réseaux sociaux.
En effet, dès aujourd'hui, le groupe de communication Laval la Ville donne la parole aux commerçants, à un représentant d'association ou un agent de la ville. Ce format vidéo d'une minute est à retrouver sur les réseaux sociaux Facebook ou Twitter.
Et d'ailleurs, on rappelle que l'autre radio est aussi sur Facebook et Twitter et que nous avons aussi un répondeur téléphonique, le 09 70 40 59 40. N'hésitez pas à laisser vos petits messages. Merci beaucoup Claire.
Merci Marie, à
on
bientôt.
On se retrouve demain, évidemment, toujours dans la JT du local, puisque c'est la fin de notre émission d'aujourd'hui, de ce jeudi. À suivre à 19h, vous pourrez écouter Le Grand V, mais avant, vous pourrez aussi et surtout écouter Positive Onde dès 13h, avec deux pastilles à réécouter ensuite. À 15h, un conte pour enfants de Radio Tiroir, et à 17h45, vous pourrez goûter aux friandises de l'ennui. Rendez-vous donc demain à 12h15 pour une nouvelle édition de la JT du local. Passez une bonne journée et à demain.
Reportage, invité, interview.
Voilà, c'est la JT du local.